les enfants de Cronos.
Bonjour à tous, Vincent Bartier de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin. Nous avons déjà pu évoquer sur cette antenne l'histoire du groupe des divisions d'entraînement du Plessis-Belleville, le GDE. Il s'agit d'un centre de formation regroupant l'ensemble des personnels navigants de l'aviation lors de la Première Guerre mondiale. Le GDE est un passage obligé pour toutes les spécialisations de l'aviation de l'époque comme la chasse, l'observation, le bombardement, les photographes, les dessinateurs. Nous n'allons donc pas vous reparler de tout cela, mais plutôt d'une formation qui avait aussi cours au GDE du Plessis-Belleville, mais dont nous ne vous avons jamais parlé. Il s'agit de l'école de la TSF. En effet, le GDE accueille aussi une école de la TSF, la télégraphie sans fil. On y étudie et on apprend à se servir du matériel de transmission militaire embarqué. C'est essentiellement les observateurs qui vont être formés à l'utilisation de ce nouveau matériel. Il faut savoir qu'aucun appareil de l'aviation française n'est équipé de TSF au début du conflit. Les premiers essais de matériel démarrent fin octobre 1914 sur des biplans, des avions, de marque Caudron et Voisin. La TSF est d'abord utilisée uniquement par l'artillerie pour les réglages de tir. 5 mois après les premiers essais, le réglage de tir depuis avion est opérationnel sur tout le front. Le nombre d'avions équipés a plus que doublé entre février et mai 1915. Le réglage de tir par TSF est employé à grande échelle pour les offensives de septembre 1915. En un mois et demi, près de 700 réglages de la TSF sont réalisés uniquement pour la 4e armée. Pour garder secret le fonctionnement de la TSF, il est donné comme consigne aux aviateurs de détruire tout le matériel de l'appareil en cas d'atterrissage dans les lignes ennemies. Donc, moins de 6 mois, la TSF a prouvé sa grande utilité. Cependant, fin 1915, les limites du système sont atteintes et il convient de trouver au plus vite des solutions pour conserver l'avantage de la TSF sur l'adversaire. En effet, l'infanterie qui ne voulait pas utiliser ce mode de transmission au début change d'avis et commence à s'en servir pour son propre compte. Cela a pour effet de multiplier les avions équipés sur une petite zone et à encombrer les ondes. Les améliorations de la TSF permettent de continuer à augmenter son rendement et lors des opérations sur la Somme, son utilisation a été triplée par rapport à septembre 1915. C'est une jeune entreprise, la Société Française Radioélectrique, SFR, qui pendant toute la guerre est le fournisseur quasi exclusif du matériel TSF embarqué pour l'armée. Donc, pour pouvoir former tous ces aviateurs à l'utilisation de la TSF, il est créé 2 écoles dans l'Oise, une à Liancourt et l'autre dans le Valois, au Plessis-Belleville. Les élèves suivent tout d'abord une instruction théorique d'une durée d'un mois, au groupe des divisions d'entraînement. Le but de cette formation est de donner aux observateurs une instruction préparatoire, les mettant à même de rendre immédiatement des services dans une escadrille. La nécessité de fournir des hommes rapidement opérationnels au front est fondamentale. Cette formation est réservée aux officiers. L'instruction pratique en avion constitue la majeure partie de l'enseignement. Elle regroupe tous les moyens, la TSF, les panneaux, les cartons, les projecteurs, les fusées. Donc, tous les moyens que doit savoir utiliser un observateur en avion pour correspondre avec le sol. En outre, pour faire face à la menace de l'avion ennemi, une instruction au tir est mise en place. À la fin de cette période, au Plessis-Belleville, les stagiaires partent pour un stage de 8 jours à l'école de tir de Cazaux, afin de se perfectionner avec leur seul moyen de défense, embarqué, les mitrailleuses. Les élèves observateurs qui réussissent cette formation sont affectés à une escadrille comme stagiaires. L'instruction y est poursuivie sous la direction d'un observateur expérimenté. Cependant, les avions de cette époque ne sont que très rarement à 3 places. Il est donc recommandé que l'observateur expérimenté soit aussi pilote, Mais dans la grande majorité des cas, le stagiaire réalise ses premières armes dans son escadrille en solitaire. Les autorités militaires de l'époque mettent également en place des stages de remise à niveau pour les observateurs, afin qu'ils puissent utiliser sans aucun problème les moyens mis à leur disposition et qui évoluent continuellement. Ce stage est mis en place car il est régulièrement mentionné dans les rapports que les observateurs n'ont pas une instruction suffisante pour utiliser correctement les postes de TSF embarqués dans leurs appareils. Il faut savoir que l'observateur ne peut pas être opérationnel s'il n'y a pas une personne formée au sol. Cette réception au sol est réalisée par les sapeurs télégraphiques. Ils suivent eux aussi une longue période d'instruction durant laquelle ils se forment sur tous les moyens de transmission en dotation dans l'armée. Mais eux ont une formation généraliste et pas uniquement sur les moyens en lien avec l'aviation. Lors du déménagement du GDE du Plessis-Belleville pour Chartres, au printemps 1918, l'école de la TSF rejoint Cesson au nord-ouest de Melun et y restera jusqu'à la fin de la guerre. Cette école de la TSF du GDE va voir passer des stagiaires et formateurs de renom, comme le caporal Fernand Holweck, qui arrive au Plessis-Belleville au début de l'année 1917 pour suivre sa formation. Fernand Holweck est avant et après la guerre, d'abord préparateur, puis chef de travaux, et enfin maître de conférences adjoint au laboratoire Curie. Il exercera ses fonctions entre 1910 et 1941. Il meurt en 1941 sous la torture de la Gestapo. On va également aussi rencontrer Camille Guton, et quant à lui, formateur. Avant la guerre, il est maître de conférences à la Faculté des sciences de Nancy. Il va mettre au point en 1917, pour la première fois dans le monde, des liaisons téléphoniques entre deux avions et entre un avion et le sol. En effet, avant cela, les liaisons entre le sol et l'avion sont à sens unique, c'est-à-dire l'avion émet, le sapeur au sol reçoit, mais l'inverse n'est pas possible. Le bon fonctionnement de la TSF nécessite une correcte réception des informations émises par l'observateur et surtout une transmission fidèle par le sapeur à l'artillerie. La bonne transmission de l'information permet un réglage de tir adéquat. Cette mission au sol est confiée, comme nous l'avons indiqué précédemment, aux sapeurs télégraphiques qui sont principalement issus d'un régiment chargé des transmissions. Ce régiment est essentiellement le 8e régiment du génie qui compte à la fin du conflit plus de 50 000 militaires. Ces sapeurs installent donc leur poste de réception à proximité de la batterie d'artillerie ou du poste de commandement. La production de postes radio est de 50 en 1914, elle passe à 28 000 en 1918. Cette augmentation de production et l'amélioration constante de la qualité des produits permettent aussi à la France d'équiper les autres armées alliées, en particulier la jeune armée américaine. C'est aussi pour cette raison que le GDE voit passer des stagiaires de tout horizon venant des différents pays engagés auprès de la France dans ce conflit. L'Oise va aussi voir la mise en place d'un autre centre de formation pour une arme nouvelle, qui voit le jour pendant la Première Guerre mondiale. Il s'agit de l'artillerie d'assaut, l'AS, mais nous en reparlerons un peu plus tard. L'artillerie d'assaut va aussi bénéficier de la TSF pour la première fois en octobre 1917. Cela se passe lors de la bataille de Malmaison, non loin du chemin des Dames. C'est des sapeurs du 8e génie qui montent à bord des chars d'assaut munis d'appareils de TSF. Ils vont, grâce à eux, mettre un précieux renseignement sur la marche des opérations.